comme nous tous, nous sommes toujours amenés à prendre, reprendre ce qu'on a construit dans des diaporamas et puis les reprendre au dernier moment ou à la dernière minute, pensant que cela méritait d'être repris, revisité. Et pour avoir travaillé pendant quelques années de façon très proche avec Alain, j'ai eu un maître dans cet exercice-là. Et je vais donc, comme tout élève devant son maître, m'exercer devant vous à cet exercice-là. Donc je ne vais pas parler vraiment du CO-REM, des données ou de l'architecture de la base Visa. Je vais vous présenter une diapositive, une capture d'écran de la page du site Visa que je vous encourage à visiter, vous informer qu'il va y avoir un événement en octobre 2013 à Brest, jolie ville s'il en est. Et puis, je vais centrer plutôt mon intervention sur la dimension méthodologique, puisque c'est la thématique fil rouge de ces journées-là, et faire une tentative avec vous d'essayer de comprendre en quoi certains travaux ou certaines directions d'études d'Alain me semblent très intéressants pour pouvoir aborder la question qui a été abordée par Luc Trouche concernant les vidéos. On a des vidéos disponibles. Qui regarde de façon intégrale une vidéo? Qui regarde de façon intégrale 50 vidéos, 100 vidéos? C'est un gros problème, sachant qu'il y a quelque chose que l'on cherche derrière et qui est relativement rare, comme a pu le montrer, enfin pu l'indiquer plutôt, Alain Mercier. Nous avons tous un chimpanzé, un épisode avec un chimpanzé, avec une poule, avec un tableau de commensuration ou avec un exercice de mémoire sur les logarithmes. Eh bien, ces exemples-là qui nous poursuivent tout au long de notre carrière, auxquels on fait souvent référence, car ils sont constitutifs de notre identité quelque part, de nos problématiques de recherche, eh bien, il faut essayer de les trouver. Et lorsque l'on sait qu'ils sont potentiellement présents dans une banque disponible pour peu qu'on puisse y accéder, eh bien, il y a un problème, celui que je vais essayer de traiter devant vous. Alors, je prends une présentation assez générale de l'essentiel de Visa. L'objectif de Visa est plus large que la simple création d'une base de données. Je l'ai pris sur un PDF qui est disponible. Remarquez que la visée ou l'ambition de Visa sur ce qui est exprimé ici est d'une ampleur incommensurable. Si l'on poursuit les différents points, de mettre à la disposition de la communauté des scientifiques des enregistrements vidéo, de situations d'enseignement et de formation, avec les documents qui leur sont associés, de collecter de nouveaux enregistrements vidéographiques, d'outiller les communautés de chercheurs et de formateurs pour analyser, gérer et traiter les enregistrements vidéo, etc., etc. Vous voyez que l'ambition, telle qu'elle est annoncée, elle est vraiment très, très importante. Je vais me centrer maintenant sur la dimension archivistique de ce dispositif. Et je vais faire appel, cette fois-ci, j'espère que ça va marcher, voilà, à une des directions méthodologiques qui me semble, à forte portée sur l'approche qu'a proposée Alain, dans laquelle Alain s'est inscrite dans sa carrière de chercheur. Donc je prends ici le transcript d'un moment de son HDR en 1999. Et Alain nous dit la chose suivante. « Pour explorer l'espace-temps, j'ai développé une méthode biographique fondée sur l'identification de certains épisodes de la biographie didactique d'élèves, en classe et dans les divers lieux où se mène l'étude. Bien sûr, le recueil d'un épisode ne peut se suffire à lui-même. Les historiens ont bien montré que le sens d'un fait isolé ne réside pas dans le fait lui-même, mais dans le croisement de son espace social avec son développement temporel. Je souligne, c'est moi qui souligne, il faut donc, pour saisir le sens d'un épisode observé, l'inscrire à la fois d'un côté dans la chronologie de la classe et dans la biographie didactique de l'élève, et de l'autre dans l'espace didactique dans lequel l'épisode trouve sa place. J'ai ainsi pu montrer comment des biographies personnelles différentes pouvaient être l'effet de la manière dont des élèves différents occupent une même position d'élève en y jouant des rôles différents relativement au savoir. Cette citation un peu longue que je prends chez Alain marque très fortement son approche anthropologique des phénomènes didactiques, et il fait appel dans cette situation-là à les historiens. Alors, en regardant sa bibliographie d'HDR, puis dans certains de ses écrits, mais pas tous, dont des noms publiés, on voit apparaître une référence qui est celle de Jacques Revel. Alors, je suis allé regarder dans le texte, dans un texte de Jacques Revel qui s'appelle « Jeu d'échelle », et je prends cet extrait suivant car il me semble intéressant sur les conséquences que cela va avoir sur les directions d'études. Oh là là, pourquoi ça fait ça? Voilà. Donc, voilà ce que nous dit Revel. Dans un texte un peu provocateur, Ginsburg et Pony, qui proposent de faire du nom propre, c'est-à-dire du repère le plus individuel, le moins répétable qui soit, le marqueur qui permettrait de construire une modalité nouvelle d'une histoire sociale, attentive aux individus saisis dans leur relation à d'autres individus. Je souligne, car le choix de l'individuel n'est pas pensé comme contradictoire avec celui du social, il doit en rendre possible une approche en suivant le fil d'un destin particulier et, avec la multiplicité des espaces et des temps, l'écheveau de relations dans lesquelles il s'inscrit. En fait, ce sur quoi il me semble focale, c'est la complexité des rapports sociaux reconstruits de façon anthropologique et dans le travail contraste avec le travail archivistique de l'historien. Mais Revel nous met en garde un petit peu plus loin, ou nous indique que la façon de se sortir de cette difficulté, c'est une reconstitution du vécu, mais surtout une délimitation, une réduction nécessaire qu'il doit être opérée dès lors que l'on s'attache à cette tâche entre archiviste didacticien, par rapport à la reconstruction de l'écheveau de relations dans lequel il s'inscrit. Alors, pour continuer dans ce chemin-là, je propose de mettre un petit peu publiquement à la discussion le synopsis comme structurant d'une stratégie de données permettant d'opérer justement cette réduction du général. Alors, j'ai pris un certain nombre de références, Assud et Mercier, Schubauer, Léonie et Lautenegger, Sanseville 2007-2011, Tiberghien, etc. Je l'ai pris historiquement par rapport au moment où finalement un certain nombre dans la documentation, beaucoup de publications ont été argumentées là-dessus. Mais puisque c'est une journée en hommage à Alain Mercier, je vais prendre une de ses dernières étudiantes qui a développé plus particulièrement le statut du synopsis dans sa thèse, c'est Florence Ligoza. Et donc je vais prendre un extrait de sa thèse. Elle nous dit la chose suivante. Co-dirigée avec Marie, mais Marie, j'aimerais bien qu'on fasse une journée hommage aussi. On pourrait. Tu es disparue, mais tu es encore là. Donc je reprends, excusez-moi. Selon nous, la recherche de l'exhaustivité dans la description des parties et des spécifications ne saurait être un objectif de la description scientifique, qui vise plutôt à dégager un modèle de l'objet ou d'un fonctionnement des pratiques dans notre cas. C'est donc bien vers le tableau construit afin de montrer des traits que tend notre travail, tout en sachant que la pratique descriptive reste toujours en tension entre trop ou pas assez de détails, afin de maintenir une homogénéité dans le grain des détails sélectionnés à un niveau donné. Plus loin, Florence Ligoza écrit la chose suivante. Selon cette approche, le sujet descripteur est acteur d'un mouvement descriptif qu'il produit via une intention qui se manifeste dans une reconfiguration. Cette proposition nous paraît intéressante car elle correspond bien à la démarche clinique expérimentale. Oh là là. Excusez-moi. En effet, le parcours permet de penser l'intention du chercheur et au-delà, la logique du projet de recherche qui organise la description d'une certaine façon. Nous ne pouvons pas manquer de faire un dernier rapprochement avec la formule wittgensteinienne de vision d'ensemble ou de vision synoptique, telle qu'elle est reprise en didactique comparée. Oui. Il y a peu de temps, à l'avant-dernière journée visage, j'avais fait une intervention pour montrer à quel point il était nécessaire pour comprendre le parcours des données dans les données Brousseau, d'essayer de comprendre les questions qui avaient été à l'origine de la capture de ces films. Ce travail qui est essentiel et constitutif de la réalisation du tableau synoptique montre bien à quel point il est important pour comprendre, justement, dès lors que des données sont déposées, l'intention et la question de recherche qui était à l'origine de ces travaux-là. Alors, je prends un exemple chez Assu Desmerciers d'un texte qui a été écrit pour un symposium sur l'action conjointe professeur-élève dans un système didactique. Ce texte date de 2006, mais il me semble particulièrement éclairant du point de vue de ce que Alain a énoncé tout à l'heure, mais de façon un peu noyée dans tout ce qu'il a dit, c'est la théorie de l'objet que l'on regarde, et de voir un petit peu comment dans ce texte-là, qui s'appelle « L'action conjointe professeur-élève dans un système didactique orienté vers les mathématiques », il y a un autre article publié à RDM 27.1, co-signé par Assu Desmerciers et Sansevi, qui relève un petit peu de cette approche-là, mais je trouve qu'elle est ici présente particulièrement à l'état pur. Et donc je vais vous montrer un petit peu, à travers des extraits de ce texte, comment on peut voir le rôle du tableau synoptique, comment il est important pour réduire le domaine de réalité, et puis surtout avoir la capacité ou la possibilité de regarder là où c'est intéressant de regarder. Donc la première question à l'origine du travail qui est publié dans ce texte, c'est comment aborder le problème de l'action conjointe professeur et élève. Donc ce n'est pas une question nouvelle à la date où a été publié ce texte, où a été écrit ce texte. Toutefois, reposer aujourd'hui cette même question a un double intérêt. Cela permet de mettre l'accent sur le centrage nécessaire de toute analyse d'une relation didactique. Cela permet ensuite de s'intéresser aux moyens d'observation, de description ou d'analyse de cette action que nous qualifions de conjointe. Alors, ce texte fait état d'éléments de description à propos d'une recherche conduite dans le cadre d'une recherche en mathématiques et en français, le PIREF, coordonnée par Gérard Sansevi. Et l'élément que je vais très brièvement survoler, c'est une question qui est proposée de travailler dans trois classes différentes, mais ici j'en montrerai que deux. Combien de bandes de 5 étoiles il faut pour mettre sur un sapin à partir du moment où l'on propose un certain nombre d'étoiles, ici dans le cas de 9 étoiles ou dans le cas de 11 étoiles. Donc le problème, il est aux élèves de produire des bandes pour décorer à Saint-Pin, sachant qu'ils auront une contrainte de nombre pour pouvoir réaliser cette décoration. Alors, voilà ce que nous propose, Assu des Merciers. Alors, les indicateurs de l'action observée sont donc pour nous fondés sur les objets avec lesquels professeurs et élèves entrent en rapport, et plus particulièrement ceux dont l'usage montre une fonction sémiotique. Ici, on voit ce que Alain, on voit illustrer de façon assez explicite la dimension théorique de l'objet observé et son statut dans la description qui va être produite de la leçon, enfin des leçons qui sont mises en place dans les classes. Et voici de façon plus explicite encore comment ce corpus est analysé. Pour analyser notre corpus, nous avons procédé de la manière suivante. Nous avons mené une analyse a priori du savoir en trois temps, une analyse descendante qui nous permet d'analyser le savoir supposé être l'enjeu du jeu. Cette notion de jeu, je pense qu'elle a été complètement, enfin, de façon assez satisfaisante abordée. Une analyse ascendante qui nous permet de voir les possibles techniques que les élèves peuvent mettre en œuvre. Ces deux types d'analyses nous permettent de voir certains problèmes didactiques auxquels les professeurs peuvent être confrontés. Cette triple analyse, a priori, nous permet ensuite de faire un découpage des séances en un certain nombre d'unités autour des types de tâches effectivement proposées aux élèves. Nous avons ainsi produit un synopsis de chaque séance. Très clairement ici, l'orientation de la description et le modèle qui est convoqué est celui des objets et des techniques disponibles ou à disposition du professeur comme des élèves pour réaliser cette tâche et la recherche selon toute cette séance de ce qui relève de cela. On voit bien que d'une certaine façon, est annoncé le travail de réduction et comment il se produit ce travail de réduction sur le général. Alors je ne sais pas si c'est très lisible. Alors je suis un petit peu confus, mais je n'ai pas réussi à améliorer la netteté de l'affaire. Mais alors je vais la commenter. On voit ici un relevé, un tableau synoptique de la leçon, que je commande donc puisque vous ne pouvez pas le voir, qui permet de mettre en évidence malgré tout un certain nombre de différences et de similarités entre les conduites de leçon du point de vue du modèle qui a été convoqué, c'est-à-dire les techniques et les tâches, et voir par exemple qu'il y a un professeur qui, de façon... Qui, par rapport à une tâche qui est les 11 étoiles, consacre beaucoup plus de temps, par exemple, que le professeur Roger ici. Et donc, on voit apparaître, par rapport à ce que permet de condenser le tableau synoptique, un certain nombre de similitudes et de dissemblances entre les différentes techniques qui, dans l'article, seront par ailleurs plus largement commentées. Mais voici ce que nous disent Mercier et Assud. Ainsi, la reconstruction proposée par le synopsis le montre. L'impression première donnée par un enseignement est trompeuse, parce que l'observateur prend inconsciemment un point de vue, celui du savoir officiellement présenté, celui du professeur, celui des élèves ou même celui de tel élève. De chacun de ces points de vue, le paysage apparaît différent. Il est donc nécessaire d'apprendre à suspendre notre jugement jusqu'au terme de cette reconstruction, c'est-à-dire jusqu'au moment de sa validation par le croisement des points de vue. En conclusion, voilà ce que nous dit dans cet article Assu des Merciers. La leçon est encore une fois édifiante de ce que l'on peut voir de l'analyse. Les techniques les plus efficaces sont proposées très vite par Roger, un des deux professeurs, mais elles ne sont pas apprises par tous les élèves. Leurs usages mettent en difficulté de nombreux élèves. Cependant, Rita et René, comme Roger, montrent bien aux élèves, par des procédés pourtant fort divers, qu'ils abordent là un type de tâche nouveau. Plusieurs questions semblables sont posées et la répétition des cas montre la généricité de la question. Je m'arrête ici pour montrer à quel point la vertu de suspension de tout jugement est intéressante dans le tableau synoptique, mais il a aussi vertu à montrer ce qui est rare. Je reviens pour finir. J'ai commencé par la micro-histoire et je vais terminer par la micro-histoire. N'y voyez aucune allusion subversive sur les procès en sorcellerie qu'on pourrait intenter à qui que ce soit concernant ce que je regarde. Le procès est le lieu, en d'autres termes, d'une rencontre à des différents niveaux entre inquisiteurs et sorcières, dans la mesure où ils partagent une vision commune de la réalité. Or, précisément parce que ces rencontres se produisent à des différents niveaux, une sorte de hiatus entre les croyances de l'accusé et celles du juge, hiatus que ce dernier tente généralement en toute bonne foi, en ayant recours, si nécessaire, à la torture. Pour vous montrer à quel point il est rare de rencontrer des lieux où il y a la possibilité de voir comment les acteurs font fonctionner les institutions. En conclusion finale, je voudrais dire à quel point, pour qui a eu la chance de travailler avec Alain Mercier, de constater sa forte inventivité quant à l'observation, sa pertinence, mais aussi qui a eu la chance de partager les affres techniques, lui montre à quel point il est parfois risqué de lui confier une instrumentation technique. Il y a un certain risque, vous avez pu le constater, mais nous avons été ravis et nous serons ravis de pouvoir continuer avec lui de prendre ces risques. Je vous remercie.